Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi et enchanté de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de la moto sur le 106,6 de Radio Campus Lille ou www.campuslille.com ou sur le DAB+ de la radio numérique. La vedette de cette émission aujourd'hui, c'est le tout-terrain avec son acteur principal, Guy Pilarczyk. Bonjour, acteur principal.
Merci. Merci beaucoup.
Ça va, Guy ?
Ça va.
La santé, ça va ?
Impeccable.
Le tout-terrain, il y a de l'actu ?
Il y a de l'actu, comme d'hab, hein, comme tous les mois. Tout le deuxième dimanche, parce que c'est enregistré. Alors aujourd'hui, au sommaire, nous allons avoir, bien sûr, notre Gilou, avec deux mots en quatre temps, ou quatre mots en deux temps, tout dépend.
Comme on veut.
Tout dépend de la moto. Nous allons avoir aussi les résultats des championnats du monde de course sur glace qui se sont déroulés en Hollande samedi et dimanche dernier. Donc on a un invité, Régis qui a vu la glace de près d'ailleurs.
Alors, bonjour Régis, il faut
bonjour.
Que tu sois là aux auditeurs, voilà. Et donc c'était la dernière épreuve, hein.
Oui.
Et ça s'est passé donc aux Pays-Bas à
Ereven. Ensuite, il y a eu un décès, c'est Jaroslav Falta, c'est un champion tchèque, et c'est Antoine Legendre qui va nous parler de lui, parce qu'il était souvent en contact avec ce pilote. Ensuite, Milko Podisek, le vainqueur de l'enduro du Touquet, et il est en tête du championnat de France élite. Et ensuite, nous allons avoir Jojo. Mais c'est pas Johnny Hallyday, c'est Johan.
Ah, c'est bien José. Jojo, son nom de motard.
Ouais.
Ah,
José Johan qui va nous parler de sa brocante expo à Guignes dans le Pas-de-Calais.
Qui aura lieu le 16 et 17 avril.
Voilà.
C'est-à-dire le week-end prochain.
Le week-end prochain.
Très bien, voilà. On salue notre technicien, Laurent. Et on se retrouve juste après notre première pause musicale.
Old Dooley is my grandpa in the Blue Ridge Mountains.
Le rendez-vous de la moto tous les dimanches à partir de 11h sur les ondes de Radio Campus Lille ou www.campuslille.com ou le DAB+ de la radio numérique. Guy, nous avons Gilou, hein, Gilou donc pour deux mots en quatre temps, Gilou qui est au téléphone.
Ou quatre temps en deux mots.
Ou peu importe.
On peut dire comment, Gilou?
On peut dire deux mots en quatre temps, voire trois mots en quatre temps, tu me connais?
Ouais, voilà.
Alors bonjour, hey, attends, j'ai préparé un truc. Bonjour, terre tous, terre toutes.
Ah. Alors, tu vois, je vais te dire, Gilou, ouais. Il faudra encore un petit peu progresser
ouais.
en ch'ti.
Ouais.
C'est pas encore tout à fait ça, mais écoute, ça vient quand même.
Bah oui, j'ai essayé avec Terre.
Bonjour Terre tous. Non, alors bonjour Terre tous, voilà, si tu veux.
Ouais, Terre tous, d'accord.
Et l'accent vient en mangeant du pot de chevelèche, Gilou.
Oui, frites, bien sûr. J'ai beaucoup de mal, j'ai la bouche pleine pour pouvoir le dire.
Oui, alors Gilou, ouais. Oui. Mes mots motocross. Il faut dire aussi qu'il y a une refonte du site, un travail colossal. Avec des graphiques, voilà. Des pourcentages, comme dans les élections présidentielles, c'est dingue. Hein,
mais voilà, mais moi c'est pas de la prévision, si tu veux, c'est sur du réel. C'est-à-dire que moi je suis donc j'ai refait les fiches pilotes de tous les pilotes en activité en Grand Prix en 2022. Donc ça y est, ça s'est fait. Et tous les fiches circuits, je suis en train de les faire avec les statistiques depuis les premiers Grands Prix qu'il y a sur chaque circuit. Tout à l'heure, on va parler du Grand Prix du Portugal à Guéda, par exemple. Bah, ça y est, les stats sont à jour. Le nombre de victoires des pilotes classés, le nombre de Grands Prix gagnés sur ce circuit, les manches, etc. Donc tout va figurer dessus avec... j'essaie de trouver à chaque fois une belle photo et puis je pense que c'est plus complet et plus lisible que ce qu'il y avait avant. Et puis en plus, ça me permet de donner un petit peu de râteau sur les éventuelles boulettes qu'il peut y avoir en saisie, des choses comme ça. Donc j'ai beaucoup de travail, beaucoup de projets sur le site, donc il n'y a pas de problème, je suis occupé.
Bien, alors on te souhaite bon courage.
oui, pas de soucis.
Et moi je regarde, je suis à l'affût de la moindre faute, Gilou.
Oui.
Du moindre point non donné.
Non, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a tous les utilisateurs. Il y a beaucoup de gens de la presse, hein, les spécialistes, les impresses spécialisées, les journalistes, les photographes. Il y a Pascal Odicker travaille souvent avec. Il fait des interviews, des portraits de pilotes ou des courses, etc. Et hop, il va regarder, il voit qu'il y a une petite erreur sur une fiche. Des fois, c'est pas la bonne moto sur l'année concernée. Des fois, il me signale l'erreur et comme ça, c'est super, je corrige et puis voilà.
Ok. Donc, dimanche dernier, tu es parti en Bretagne. Puis, dans le froid.
Oui, enfin, écoute, c'était la troisième épreuve remaniée du championnat de France élite. On a eu la première, c'était donc, à Lune-Plage. Il faisait très froid, il y avait du vent. Et d'ailleurs, tiens, pendant que j'y pense, c'était aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Isabelle Andrieux. Donc, bon anniversaire, Isabelle.
Ah, bah, on va lui souhaiter également. Alors, nous aussi, on lui souhaite un bon anniversaire.
Voilà. Si. Donc, c'était le froid à Lune-Plage. À Guignon, la deuxième épreuve, ça a été la pluie. Beaucoup de pluie, donc c'était aussi un petit peu perturbé à cause de ça. Et à Romagny, il faisait froid, mais il y avait du soleil. Ah. Alors, ce qui faisait qu'en étant bien couvert, c'était finalement un temps idéal pour regarder les courses. Le circuit était impeccable, la piste impeccable, les courses se sont déroulées normalement. Il y avait du monde, il y avait beaucoup de public. Et bon, souvent en Bretagne, hein, c'est un public assez... fidèle à l'épreuve, et ce sont des gens qui aiment le motocross, donc on le voit aussi bien à Herné qui est un circuit voisin, on le voit avec ça, où ils font dit que voilà, il y a toujours du monde en Bretagne sur les circuits de motocross. Donc là, il a fait froid pendant deux jours. Hein, faut voir quand même que la veille il y avait eu de la neige et tout, donc c'était quand même c'était particulier. Mais bon, on a eu quand même un temps en étant couvert, un temps qui était bien pour suivre le motocross en étant sur place.
Et surtout, pas trop de barrières, de grillages et de publicités qui cachent.
Encore que ils ont fait deux choses qui ne me convenaient pas, mais bon, je l'ai signalé un petit peu sur ma page Facebook.
Tu es difficile.
Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont mis surtout des gros rouleaux de paille au bout de la ligne droite au premier virage. Alors c'est des trucs qui font, je sais pas, au moins 1m50, 1m60, 1m80 de haut. Mais ce qui fait qu'avec l'épaisseur du rouleau, c'est tellement gros que lorsqu'on veut faire une photo, on se retrouve systématiquement, soit on prend que le haut du pilote, c'est-à-dire sa tête et puis éventuellement ses épaules en photo, soit si on pique un petit peu sur la piste, on se retrouve avec tout le bas de la photo dans la paille. Voilà, ils ont mis quelque chose et voilà qu'un petit peu. Donc ils auraient dû mettre derrière quelque chose ou des palettes ou une espèce d'estrade pour être un petit peu en surplomb de ça. Et puis sur une autre partie du circuit, alors là sur un grand virage, ils ont mis ces fameuses grilles de 2 mètres, des grilles provisoires. Alors là, je ne sais pas du tout pourquoi. Apparemment, ça vient de la préfecture qui a imposé ça. Donc ils l'ont mis. C'est un grand virage sur à peu près 50 mètres tout autour du virage. Des grilles dessus. Et il n'y a absolument aucun risque. Ou alors, faut que le gars, il décide tout seul de foncer vraiment dans le public. Hein. Sinon, là, c'est absolument impossible de retrouver une moto qui passe par-dessus. Là, c'est incompréhensible. Enfin, bon, il paraît que c'est la préfecture qui a imposé ça. Bon, il y a des gens incompétents partout. Hein. Donc, c'est le problème. Mais bon, non, Romagné, c'est un circuit qu'on appelle un circuit à l'ancienne, c'est-à-dire que le public est le long des barrières, on peut suivre la piste, les courses, on peut les suivre vraiment un peu de partout, c'est agréable. C'était la dernière année que ce circuit était dans cette configuration, parce qu'à partir de l'année prochaine, ils vont le refaire complètement et la piste se prendra dans l'autre sens. Donc ça va être une nouveauté, on verra comment ça se déroule. Et puis, comme tu en parlais, j'espère que simplement qu'il n'y aura pas des gros grillages partout, parce que sinon ça serait une catastrophe. Mais enfin, l'histoire des grillages, hein, c'est surtout pour les Grands Prix que c'est imposé. Et puis lorsque je vois les Grands Prix à l'étranger, je me pose des questions sur le fonctionnement en France. On est parti avec une politique du risque zéro tout le temps. Ça me paraît, c'est vraiment contre-productif. En plus, il y a de moins en moins de monde qui va sur les Grands Prix de motocross en France. Et bon, il y a des raisons. Il y a le prix du billet, mais il y a aussi les grillages comme ça, parce que c'est vraiment une gêne, c'est une réelle gêne. Enfin bon.
Alors au niveau des courses, Gilou, il y a le Lion des Flandres qui a...
Oui.
Qui a gagné, hein.
Oui, il a gagné. De toute façon, il fait un sans faute pour l'instant, hein, Mikko Podisek. Hein, donc, il est en tête du championnat. Il a gagné l'épreuve Romagné, hein, premier et deuxième. Donc, c'est une belle victoire. Bon, il en faut aussi un petit peu de chance, hein, parce qu'on avait un Maxime Desprez qui était très, très fort et qui... il a fait une erreur en première manche. Les événements de course ont fait qu'il se retrouve avec. Il termine de loin dans le classement. Je ne sais plus combien il est, mais. Attends, je suis dans. Voilà, 19e. Donc, c'est loin. Mais Mikko Podisek a assuré comme il fallait. Et donc, il a gagné cette course. Et c'est la troisième. Et la troisième qui gagne. Donc, c'est quand même un signe. Et puis, il est en tête du championnat. Donc, pour lui, il n'y a pas de souci particulier. Et puis, on peut lui souhaiter simplement de continuer sur sur son fonctionnement, de gagner les manches, de gagner les courses. Il part bien. Donc, c'est vraiment... parce que là, c'était vraiment un circuit de terre. Hein. C'était vraiment...
Ah ouais.
La première course, c'était à une plage. Donc, c'était du sable.
Sable.
Là, c'est un circuit qui... C'est une matière de sol qu'il aime bien. À Guignon, c'était de la boue, de la pluie. Ça permet aussi ceci quand c'est comme ça, boue et tout, ça réduit un petit peu les écarts entre les différents pilotes. Donc ça lui permettait aussi de réduire un petit peu l'écart avec d'éventuels pilotes plus rapides sur la terre et tout. Mais on a vu par exemple donc à Romagné, les circonstances de course ont fait qu'il a gagné l'épreuve et puis il n'y a rien à dire. Il est en tête du championnat et puis avec sa plaque rouge, c'est vraiment du solide.
Donc... Ok Gilou. Gilou, on arrive à 10 minutes. Normalement, c'était 5, mais bon, vu que c'est toi, c'est 10.
Oui.
On te reprend dans le cours de l'émission.
D'accord. Okay. Bon, bah alors, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Ouais, ouais, c'est bien ça, Gilou. Là, ouais. Mais là, un petit peu plus, un petit de puissance dans la voix. Là. À tout à l'heure. Voilà, tu vois.
Ok, ça marche.
Rendez-vous de la moto tous les dimanches à partir d'11h sur Campus Lille. On parle du championnat du monde d'Ice Race qui s'est terminé aux Pays-Bas le week-end dernier à Ereven.
En effet. Et ça fait, bon, pour moi, ça fait une trentaine d'années que j'assiste au championnat.
30 ans que tu vas au championnat aux Pays-Bas, là
si c'est...
Ça a changé d'endroit. Hein
d'endroit, oui, de Assen.
C'était Assen avant.
Assen, la piste a été détruite parce que c'était vieillot.
Oui.
Ils sont partis à une quarantaine de kilomètres à côté de Ereven.
Et là, c'est pareil, c'est quoi? C'est une piste dédiée justement à l'Ice Race ou...
Ah non, non.
Ou c'est une patinoire ordinaire?
C'est une patinoire ordinaire.
Ordinaire, ouais. Oui. Et non, c'est une patinoire. Régis, il faut que tu parles dans le micro.
Oui, oui. C'est une patinoire où c'est la course sur glace en patin. Et il y a une, comment on appelle ça, les, avec les cailloux, là, les...
Les cailloux, oui.
Les, ouais, on cherchait le mot, mais...
C'est pas grave, ça va nous revenir.
D'un côté, il y a ça, et de l'autre côté, il y a une piste de... pour le hockey sur glace.
Attendez, je précise à vos éditeurs que Régis, tu as participé. Hein, vous étiez en toute une petite bande là-bas, donc à Ereven, participer à cette dernière épreuve du championnat du monde d'Ice Race.
Alors, les courses sur glace, difficile de les classer. Bon, c'est des cousins assez proches du speedway et du grass track, mais cousins très éloignés du motocross, hein, les courses sur glace. Mais bon, vu que c'est de l'eau, bon, c'est du tout terrain.
Si j'ai bien compris, cette année, il n'y avait pas de Russes.
Non, alors cette année, déjà l'année dernière, avec le Covid, le championnat a eu qu'une seule épreuve. Et cette année, Covid. Et puis, les organisateurs d'Ereven ont mis les billets en vente le jour de la déclaration de la guerre en Ukraine. Alors... aller savoir si ça allait avoir lieu. Dans la semaine, la FIM a sévi en refusant les pilotes russes de venir disputer le championnat. Le championnat. Comme dans d'autres sports, d'ailleurs. Hein.
Alors ça, on pourra en parler, hein, parce que bon, ben, ces pauvres pilotes russes, peut-être qu'ils ne sont peut-être pas d'accord avec ce que fait Poutine en Ukraine.
Ouais,
hein.
Mais enfin,
donc, c'est avant tout des sportifs et puis des gens qui...
Sauf
la passion, c'est la moto, c'est la S-Race.
Sauf s'ils le disent ouvertement, c'est 15 ans de tôle, hein, là-bas.
Ah oui, bien sûr, oui. Mais, je sais pas. D'accord.
Il faut faire attention, quand même. Oui. Hein. Donc, troisième, c'était la... Il y a une épreuve au Kazakhstan, elle est annulée pour le Covid. À Inzell, en Allemagne, annulée pour le Covid. Berlin, piste non conforme, annulée. Donc, il restait Ereven, où se disputent deux grands prix. Le samedi, oui. Il y a un grand prix distinct, et le dimanche. Donc, ces pilotes russes ont été remplacés par des pilotes tchèques, suédois, norvégiens... je ne sais plus quel pays, mais si tu veux, les 16 pilotes étaient vraiment de force à peu près identique. Hein, parce que sinon, les Russes, bon, bah,
ils dominent.
Ouais, ils partent en tête et puis ouais. Personne n'arrive à les remplacer. Peut-être un mot, Régis, toi qui as assisté pour la deuxième fois, je crois.
Hein. Oui. Donc, il n'y avait pas les Russes. Effectivement, il y avait plus de harnes sur la piste. Il y a eu beaucoup de sorties de piste par rapport à d'habitude. Et on a senti qu'il manquait les Russes quand même, hein, qui étaient là pour... Mais ceux qui étaient là, ils se sont donnés à fond, vraiment à fond. Vraiment, il y avait du spectacle. Beaucoup de sorties de piste.
Ça, c'est impressionnant. Parce que moi, j'ai assisté une fois aussi. Je suis allé voir cette course-là. Mais c'était à Seine. Hein, et c'est vrai qu'une sortie de piste pour ces motos-là, avec, hein, il faut rappeler quand même, c'est des clous. Les pneus sont équipés de clous mais de 3 cm, 4
cm. 2 cm.
2 cm. Il y a une norme. Hein.
Oui, ils se voient bien, les clous. Hein, oui. Voilà.
Mais alors, quand ça part, quand ça décroche, le pilote glisse, la moto glisse, mais après, ça reprend sur les. Ça peut reprendre sur les clous, hein. Et là on voit la moto qui peut être projetée à plusieurs mètres, hein, d'hauteur.
Non. Donc il y a des ballots de paille tout autour, hein, sur l'extérieur de la piste. Et après il y a encore une couche de, je sais pas ce que c'est là, les trucs marrons là qu'il y avait sur le.
Ouais, c'est de la mousse.
Donc entre les deux, entre les bottes de paille et ces ballots marrons, il y a comme un vide. Et il y en a plusieurs qui sont arrivés là-dedans, quoi. C'était impressionnant. Et à deux fois, la civière est arrivée. Elle n'a pas servi, heureusement, parce que le pilote s'est remis debout. Mais on est resté quand même des fois presque un bon 5 minutes à attendre savoir ce qui était arrivé au pilote.
Ça serait bien d'être dans le détail. C'est des courses de 4 pilotes à chaque fois. Hein.
De 4 pilotes, de 4 tours.
Alors, c'est 4 tours et 4 pilotes. Et donc, il faut prendre le pilote qui prend généralement la tête au premier virage. C'est généralement le vainqueur. Hein,
mais pas souvent.
Pas souvent, parce que les dépassements se font dans les virages, principalement.
Oui, dans les virages.
Dans les virages, c'est impressionnant. Hein.
Mais le problème, c'est que celui qui est à l'extérieur du virage, malheureusement, il doit pouvoir venir se remettre à l'intérieur. et derrière les pilotes qui sont devant lui déjà au premier virage.
Oui, en effet, et la meilleure place, c'est la place à l'extérieur. Avec
à l'extérieur, oui.
Le gars a un casque avec une calotte rouge, parce qu'il y a des couloirs aux couleurs. Hein. Donc, le championnat s'est déroulé le samedi soir et le dimanche après-midi. Et étant donné que... Je ne comprends pas très bien, la fédération a annulé la participation des Russes, mais n'a pas annulé leurs points qu'ils ont gagnés en Russie. Oui. Mais il y a eu une manche en Russie mais avant l'invasion de l'Ukraine. Alors ils ont gardé leurs points. Alors il y avait un Allemand, Johann Weber. Lui, il était, pilote possible d'avoir la couronne mondiale. Malheureusement, si le premier jour, il termine deuxième, le deuxième jour, il fait une chute. Hein, assez...
C'est
la bonne
C'était
chute.
Hard, hein. Ouais, ouais.
Mais bon, il n'était pas blessé. Alors, après, la course a repris, mais il est arrivé aussi... Il y a un temps réglementaire pour arriver sur la piste avec 2 minutes de retard, donc il était exclu. Alors, c'est ce qui a fait profiter un pilote suédois, Martin Aratitilen. C'est un bon pilote, hein. Il mérite ce titre parce que c'est l'un des seuls pilotes qui a titillé les pilotes russes.
Les pilotes russes, oui.
Hein, mais bon, quelquefois il a chuté parce que bon, il peut peut-être aller un peu trop rapidement.
Oui, c'est ce qui s'est passé cette année sans les Russes. C'est qu'il y a eu, ils se sont bien donnés, il y avait de la hargne, on l'a vu. Hein. Ils sont bien démenés sur la piste.
Hein. Oui, le championnat était ouvert puisque forcément les leaders ne sont pas
c'est
présents.
C'est pour ça que je disais qu'il y a eu beaucoup de chutes parce qu'ils ont pris des risques. Hein. Voilà.
Donc il faut aussi préciser qu'après chaque course, il y a quatre courses, il y a
quand les 16,
il faut refaire la glace, hein, voilà. Parce que c'est très destructeur, ces clous, hein, qui sont sur les pneus.
Donc il y a un défilé de tracteurs neufs.
Oui.
Il y en a qui ont des rouleaux, il y en a qui ont tractopelles. Enfin,
Donc il faut refaire, reformater la piste.
C'est surtout pour la sécurité. Hein,
Parce que généralement, l'intérieur de la piste est très détruit. Hein, quand j'avais bien vu ça.
Ouais, surtout dans les virages. Quoi.
Dans les virages. Et puis il y avait une tradition aussi, c'était le.
Alors, c'est un espèce d'hybride sidecar qui était là depuis pratiquement, je dirais, peut-être après les années 40, après la guerre. Qui faisait le rouleau et le tractopelle pour passer. Et je pense qu'ils ne l'ont pas sorti parce que je pense que même il a dû avoir des fuites. Mais les dernières fois que cet hybride sidecar est passé pour nettoyer la piste, c'est plus pour le folklore.
Oui, c'était surtout du folklore.
Faisait, oui, parce qu'elle n'était plus capable de nettoyer la piste, puisqu'à l'origine, c'était cette machine-là qui nettoyait la piste et qui la refaisait.
Oui.
Voilà, cette année on l'a pas vu.
C'était plus fun qu'avec les tracteurs.
Oui, parce que là c'est on se croirait à la au concours agricole qui a le plus gros tracteur.
Oui, c'est, voilà. Ça manque de charme.
Voilà. Et ils font pratiquement autant de tours que il y a donc 16 candidats, 16 pilotes.
Oui.
Les tracteurs font pratiquement autant de tours que
les pilotes.
Que les pilotes. Que hein,
mais ils ne faisaient pas la course. Hein.
Non, toujours, ils étaient toujours dans la même place. Le premier arrivé le premier, le deuxième arrivé le deuxième. Mais voilà.
Oui. Et la tradition, c'est que les spectateurs, pendant ce temps-là...
On va boire une bière.
On va boire une bière, hein, c'est ça. Voilà, hein. Tant qu'on refait la course, la piste.
Donc on a un petit carton pour noter les points, puisque on sait qui... Première course, deuxième course, ainsi de suite. Donc
À l'entrée, on vous donne un petit carton
un programme
pour noter aussi les points s'y retrouver.
À chaque tour, le premier, il marque 3 points, le deuxième, 2 points, le troisième, 1 point, et le quatrième, 0 point.
0 point, oui.
D'accord. Donc, tu parlais comment ça marchait les courses sur glace. Donc, la piste, la grosseur de la glace, il faut compter entre 15 et 20 cm l'épaisseur.
Oui.
La piste en elle-même, bon, environ 200 mètres, enfin, tout dépend des pistes, hein. Il y a des pistes qui sont un peu plus grandes ou plus petites. Alors les courses, 16 pilotes plus 2 pilotes de remplacement. de réserve, parce que bon, souvent il se blesse. Ou le moteur tombe en panne, le mec, il n'y a pas de moto, donc voilà. Et donc, 4 tours, un tour dure 15 secondes. Hein. Ouais. Donc, tu n'as pas le temps de panoter quelqu'un, parce que le temps que tu...
Oui, ça va très vite. Hein.
T'écris, c'est même pas la peine. Ouais. Donc, comme je t'avais disais tout le monde, tous les pilotes ont sur leur casque une calotte ou bien un casque de couleur avec des... avec leur couloir approprié. Et une fois que les 20 manches ont eu lieu, tout le monde a roulé avec tout le monde. Tu vois, alors une fois à l'extérieur, une fois au milieu, une fois...
Ah oui.
Oui, parce que...
On se partage la place, alors, sur la grille.
L'intérieur avec un casque rouge, c'était la meilleure place, hein, souvent. Donc, ce pilote, malheureusement allemand, a loupé son titre. À 3 points, je crois, voilà. Et puis, pour te dire aussi que depuis 1966, création du championnat de course sur glace, les Russes ont été couronnés 47 fois. Il n'y a que seulement 6 pilotes,
ah oui, quand même.
6 pilotes non-russes qui ont remporté le championnat du monde. C'est soit des Tchèques, des Finlandais, des Suédois, bien sûr... On ne verra jamais un Espagnol ou bien un Italien dans ce sport. Donc voilà, le championnat s'est terminé. Il y a eu quelques chutes, dont la chute d'un Suédois, mais il s'est blessé au coude.
Oui, on l'a revu dimanche, puisqu'il a couru que le samedi, je crois. Hein. Il a été remplacé dimanche. Il est venu, il y a eu le plus gros bouquet.
Oui,
tout le monde a un petit bouquet au démarrage, et lui, il a eu un gros bouquet.
Ah oui. Voilà. On parlait de
casse-moteur. Hein.
On parlait de casse-moteur. C'est quoi les moteurs généralement utilisés sur ces motos?
Alors, c'est des moteurs Jawa. Ah oui. C'est des moteurs mythiques et historiques.
Ouais, c'est mythique et historique, ça.
Ça a toujours été.
Des longues courses avec un très haut cylindre.
Voilà, un très haut cylindre, et puis quand même 60 à 65 chevaux.
Ah oui, quand même. Et ça marche à l'éthanol, je crois.
À l'éthanol, et seulement avec deux vitesses. Hein.
Et deux vitesses.
Une vitesse au départ, et puis la deuxième vitesse, dès qu'ils abordent le premier virage.
Et pas de repose-pied à gauche.
Et pas de repose-pied à gauche.
Voilà, donc c'est vrai que le pilote met le genou et puis le pied il est à l'arrière qui arrive à l'axe de la roue arrière.
Ouais, voilà.
Et le repose-pied à droite, c'est on dirait pour accrocher les chaînaux. Je sais pas si vous voyez les gouttières. Ouais. C'est un truc comme ça qui dépasse, on le voit bien. Et il pose le pied. Et sur la jambe gauche, c'est cuisse, mollet et chaussures. C'est un espèce de truc en plastique qu'ils ont. Voilà.
Alors, il faut avouer ça.
Il glisse.
Oui, oui. Il glisse sur l'angle. L'angle qui est pris.
C'est couché presque.
C'est couché presque. C'est impressionnant. L'angle qui est pris par ces pilotes. C'est fou ce que les clous peuvent accrocher sur la glace. Ben, il ne faut pas que ça part. Hein, mais,
pour se rapprocher, par exemple, des fois dans les journaux, ils parlent de Marquez qui.
Oui. Marquez, il n'y a pas de clous. Hein.
Non, il n'y a pas de clous, hein, mais eux, c'est encore pire. Quoi,
oui, oui, on peut dire que c'est encore au moins 15-20% en plus de Marquez.
Alors, dernier point, un motard devrait aller voir au moins une fois les courses.
Alors voilà, pour terminer.
Aller au Tourist Trophy et au moins voir
une course de glace. Et la plus près de chez nous, c'est
Ereven,
hein, voilà, en Hollande.
Qui est de Lille à 400 km.
À 400 km, c'est la plus proche.
Et la dernière, Guy va vous en parler, la dernière piste qu'on a eue en France, c'était du côté de Grenoble.
À Grenoble, en effet, ouais, pendant plusieurs années. Parce qu'ils ont, étant donné qu'il y avait l'infrastructure des Jeux Olympiques en 68, il était possible, il y a un club qui s'est mis à organiser des courses sur glace, chose. Et puis après, soit au décès du président, ça s'est arrêté.
Donc là, rendez-vous l'année prochaine, hein, de toute façon, pour
si tout va bien,
aller
pouvoir
revoir cette course en Hollande, aux Pays-Bas. Ereven.
Et je conseille à tout le monde d'y aller au moins une fois. C'est ce qu'on disait. C'est vraiment un spectacle.
Oui, c'est à voir. Au moins une fois, c'est à voir.
Oui. Ouais.
Voilà, allez, on passe à un morceau de musique et on se retrouve juste après.
deserve more. Towns of dust bowls, broken and burst. All of their lives gathering rust. We thought these days belonged to the past. Golden age will never last. Destroyer, battle hard won. Days of being done. They lied and they cheated, so lifeless love. You blame the immigrant and not the CEO. Now you must maintain the status quo. You thought that these days belong to the past. The golden age will never last. Destroyer, battle hard won, this taste of being done.
Nous allons parler d'un champion qui est décédé, Jaroslav Falta. Hein, et nous avons au téléphone, nous avons Antoine de Légende Moto Cross Historique.
Oui, bonjour.
History.
Voilà. History, oui, bonjour Guy, History. Bonjour à tous.
Salut Antoine. Oui, donc Jaroslav Falta est décédé voici une semaine. On était un peu surpris parce que bon, il avait 73 ans, donc c'est pas un âge avancé. Mais les Tchèques ont été très bons en championnat du monde, surtout 250, dont Falta, qui a, bon, on parlera après, où il y a un Russe qui lui a ravi le titre pour, par des manœuvres pas très catholiques, disons.
Oui.
Et puis toi, tu étais souvent en relation avec la fille à Jaroslav, et puis tu l'as interviewé aussi.
Oui, tout à fait, oui, j'ai eu la chance d'avoir des réponses pour un petit portrait, oui.
Oui, alors, remets un peu sa vie, sa vie sportive sur l'antenne. Il a été plusieurs fois champion de Tchécoslovaquie avant de commencer à concourir les Grands Prix 250.
Oui. Oui, tout à fait. Donc il a commencé très jeune, quoi, malgré tout pas très jeune la moto, aux alentours de 15 ans. Il a participé à sa première course dans son village, il a terminé troisième et il a été repéré par les membres du Dukla Prague, c'était un club omnisport en Tchécoslovaquie. Et il a été champion de Tchécoslovaquie en 1970. C'est son premier titre, il y en a eu quatre autres après. Et il a réussi à faire la saison, à commencer la saison de Grand Prix en 1971 parce qu'il a un compatriote qui s'est blessé. Et il a terminé quatrième de trois Grands Prix en 1971.
En effet, oui, en 71, oui.
Voilà, et effectivement, alors après, ça s'enchaîne parce que du coup, son premier podium de Grand Prix, c'est directement une victoire lors du Grand Prix d'Angleterre à Duddington. Il avait terminé 1 et 2 des manches et du coup bah, il gagne son premier Grand Prix en 1972.
Et ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'il était pilote officiel de l'usine CZ. Hein.
Tout à fait, oui, des motos tchèques à l'époque qui étaient quand même assez, assez performantes.
Performantes par rapport aux Husky, hein, qui, bon, c'est un peu la lutte à l'époque, CZ Husky. Hein.
Oui, tout à fait.
Et donc, il y a une progression assez fulgurante dans ce championnat. En 1974, il se retrouve pour le dernier Grand Prix à quelques doigts du titre suprême.
Tout à fait. Donc en fait, à l'époque, bah, il y avait des classements bruts et classements nets.
Ah
et,
oui, en effet, oui.
Malgré tout, avant le dernier Grand Prix, il avait 33 points bruts retard et 7 points nets. Mais en gagnant les deux manches et 6 mois CF ne faisait pas 2 fois 2, il pouvait être titré. Et en première manche, bah, il termine 3e. Mois CF chute et abandonne. Donc il n'y a plus que 6 points d'écart. Et arrive la dernière manche, tout le monde était un peu tendu, même le starter, et d'ailleurs il y a un petit souci avec le baissé de grille, tous les pilotes butent dans la grille, Falta part quand même en tête, et mais comme Moisev abandonne de nouveau, effectivement il y a ce qu'on appelle le complot des soviétiques, deux trois pilotes vont tenter de le faire tomber, d'ailleurs il y en a même un qui le fait tomber,
qui a réussi
il arrive à se relever, mmh. Comment ?
Oui, qui a réussi à le faire tomber. Ouais, ouais.
Oui, oui, tout à fait. Il s'est quand même relevé. Il a quand même réussi à gagner la manche. Donc, il est champion du monde. Mais 10 minutes après la course, il y a Moisev et les Soviétiques qui portent réclamation car il aurait volé le départ.
Enfin, le manager plutôt. Hein.
Oui, aussi, oui, voilà, oui. Donc, du coup, une réclamation est portée. Elle est acceptée parce que la pénalité est d'une minute. Donc il est déclassé, il devient 8e de la deuxième manche, et du coup il marque bah, moins de points qu'il ne fallait pour dépasser Moisev.
Et donc Moisev coiffe ce titre usurpé des...
Oui, alors il le coiffe, mais momentanément, parce que du coup Falta dépose à son tour une réclamation. Déjà il conteste la décision du jury de le pénaliser d'une minute, et il dit que la grille n'était pas, la herse n'était pas au même niveau qu'elle aurait dû être, elle était plus basse, et qu'il a été victime d'une manœuvre illicite par Popenko. Mais ça, du coup, le jury du Grand Prix n'est pas compétent, et ça va être décidé lors d'un congrès au mois d'octobre de la Fédération Internationale de Moto.
Donc, ce titre, il a été discuté sur le tapis vert.
Tout à fait, oui. Et alors, la Fédération tchèque avait comment dire, une contre-réclamation. Ils ne l'ont pas présenté lors du congrès d'octobre, mais la FIM l'a quand même visualisé, cette contre-réclamation. Mais finalement, ils ont décidé de donner le titre à Moisev.
À Moisev. Il faut savoir aussi, c'était politico, il faut savoir qu'il y a trois ans avant, c'était en 68,
oui.
68, les chars du pacte de Varsovie avaient envahi la Tchéquie.
Hein, oui. Bon,
donc, oui. C'est toujours dans leur tête aussi, peut-être.
Et oui, le complexe politique n'a pas aidé, oui.
Et aussi, tu sais, aux élections à la FIM, à l'époque, les Russes avaient une grande influence aussi.
Donc, oui, ça, c'est ce que j'ai vu, oui.
Éventuellement, ils pouvaient dire, bon, bah, vous portez réclamation, bah, on ne votera pas pour vous, enfin, etc. Quoi.
Oui, oui, il y a eu plusieurs points. De toute façon, effectivement, après le deuxième départ, il y a eu un empilage en bout de ligne droite. Tout le monde avait mis une banderole pour qu'il y ait un faux départ, enfin, un arrêt de la course et un deuxième départ. Mais un officiel du Grand Prix, qui était aussi un portateur KTM en Suisse, il a dit non, il a arraché la banderole et puis du coup, il n'a pas fait de deuxième départ. Il y a aussi plein de faits aussi qui se sont enchaînés.
D'accord. Et aussi, il faudrait signaler qu'en deuxième manche, tu as les pilotes comme Anderson, Joël Robert, Gaston Rayet, Henri Evert n'ont rien fait pour résister à la remontée de Jaroslav pour avoir le titre.
Oui, oui, dans la remontée, bah, ils savaient que c'était tendu déjà entre les pilotes et puis qu'effectivement, au classement, ça pouvait se jouer. Donc, effectivement, il a repris, je crois, 4 secondes 9 en 5 tours. Ça a fait à peu près une seconde au tout, en fait.
D'accord. Et malheureusement, Falta est vice-champion. Et puis, par la suite, il sera peut-être moins performant dans les Grands Prix suivants, non ?
Oui, alors bon, malheureusement en 1975, il commence bien, je crois, au deuxième Grand Prix, il gagne le Grand Prix, mais après il est victime d'une maladie qui le cloue 8 mois à l'hôpital.
C'était une leucémie, hein, je crois.
Voilà, oui. Et après, dans les années qui ont suivi, il a quand même remporté des Grands Prix et des manches, mais de mémoire, au mieux, il s'est classé 6e ou 7e au classement du championnat du monde.
Par contre, il a gagné aux USA.
Tout à fait, oui. Alors effectivement, bah, c'est la même année, parce que 74, il était vraiment très très fort. Il participe à ce qu'on appelait au Super Bowl of Motocross, donc c'était à Los Angeles. Il a pu y aller avec son coéquipier Zdeněk Velký, son entraîneur et puis son mécanicien. Comme c'était la coupure des Grands Prix, la coupure d'estivale à partir de juin, voilà, il a manqué aucun Grand Prix, ils sont restés un mois sur place. Et bah, il a gagné le Super Bowl de Los Angeles devant Roger Le Coster, qui n'est pas rien.
Oui, ouais, en effet, oui.
Mmh. Bah, il gagne le général en faisant des manches 1-1-2. Donc, il avait été surpris par l'ambiance, parce qu'évidemment, c'est un stade qui était impressionnant. Même s'il était allé l'année d'avant avec Antonin Baborowski, là, il était vraiment surpris par l'ambiance. Il y avait beaucoup de supporters qui encourageaient Marty Tripes.
Ah, ouais. Mmh. Ouais, je m'en
Voilà, oui, et puis bon, il a réussi effectivement à pas, lors de la dernière manche, parce qu'il est mal parti en dernière manche, il a remonté 8 pilotes, donc il a réussi à se concentrer pour pas tomber et gagner le général.
En effet, ouais. Ironie du sort, Jaroslav est parti rejoindre plusieurs pilotes là-bas tout en haut, dont Gunadi Moseyev.
Oui, effectivement. Oui,
qui est décédé il y a deux ans peut-être. Oui.
Et peut-être un petit peu plus, mais.
Et Moseyev, il devait être peut-être pas en enfer, mais au purgatoire, sûr. Alors que Falta, il était au paradis.
Oui, et alors tu sais que récemment, il a été, alors en 2020, il a été reconnu meilleur pilote tchèque du siècle de motocross. Et avec la pandémie, il n'a pas pu, la cérémonie n'avait pas pu avoir lieu. Et là, début mars, le président de la République tchèque en personne lui a remis ce prix, ainsi qu'à d'autres sportifs tchèques. Donc il a eu une reconnaissance malgré tout tardive.
Tardive, oui.
Voilà. Et il y a une lettre, il y a une note de la Fédération tchèque sur laquelle c'était marqué ne doit pas être publiée. Elle a été mise à jour seulement en 1990.
Ah, d'accord.
Voilà, oui.
Et puis, parce que Jaroslav venait quelquefois, tu sais, au championnat IMBA. Pas IMBA, mais c'est une fédération pirate qui organise des crosses à l'ancienne avec des pilotes anciens et des motos anciennes. Et d'accord. Je sais que Jaroslav est déjà venu, c'était soit en Hollande ou en Allemagne, quoi. Je ne sais pas s'il a roulé, mais il était là.
Peut-être même en Belgique, mais je ne suis pas sûr. Mais effectivement, oui, j'ai vu ça. Alors, il participait toujours à des courses d'anciennes en République tchèque, parce que c'est assez populaire là-bas.
C'est populaire, oui.
Et puis en plus, lui, il était très connu et très apprécié, quoi.
Ok, écoute, Antoine, on a mis 11 minutes pour parler de Jaroslav, alors que j'avais que 5 pour toi, tu vois, on a doublé. Hein.
Bon, Jaroslav méritait cette honneur.
En effet, oui. Antoine, on aura l'occasion de se contacter et puis de revenir un jour à l'émission sur un autre sujet.
Ok, pas de souci, impeccable.
Antoine, on te remercie, n'oublie pas de voter demain.
Oui, tout à fait, bonne journée à tous.
Allez, salut.
Au revoir. Ships and anchors whinging.
on legless and he slays them all with a riff. Pitched from Albert fucking King and tumbles on some of the tits. Stone the crows, he's up again, the crowd is on their feet. Feeding like piranhas in the heat. Remember the smile for the camera, the cops are watching you. It's criminal music and Johnny Lasagna's view. He's got the looks, he's got the hair, his pretty face is everywhere. A jack of hearts, a knight so rare.
Et oui, voilà. Et je précise aujourd'hui que, cette émission a été enregistrée hier, samedi 9 avril.
Et
voilà.
Et on retrouve le 10.
Voilà. Et on retrouve Gilou au téléphone.
Gilou.
Je suis là.
Je croyais que.
Non, il prenait sa leçon de Ch'timi.
Ouais, voilà.
Ouais, j'ai essayé avec Terre Tous.
Alors, Terre Tous, c'est rare que ça se dit. Hein. On dit Terre Tous. Voilà.
Tu ouais, vois,
le féminin, Terre Tous. Ouais. Voilà.
Bon, on dit salut.
Ça englobe les femmes, les hommes, Voilà. Voilà.
D'accord, ok. Voilà.
Et Bilout aussi.
Alors Bilout, ça bon,
c'est rare. Quoi. Garçons,
Bilout ça,
c'est
ou Bilout.
C'est surtout le film, ça.
D'accord.
Gilou. Oui. Avant d'aller au Portugal,
oui.
On va parler de deux informations que tu connais ou que j'ai reçues.
Oui.
Tu sais que bon, il y a la Coupe du Monde de foot au Qatar là,
oui.
À la fin de l'année, je crois.
Oui, enfin, certainement, oui.
Je pense. Dans un stade à l'abri de la chaleur, avec des clims géantes, etc.
Oui. Oui.
Et j'avais eu l'information que le Koweït, dans le Qatar, pardon, aurait fait un Grand Prix en stade, un Grand Prix de motocross.
Il ferait un Grand Prix en stade.
Oui, oui. Pourquoi
écoute,
pas
c'est pourquoi pas, oui. Ils ont fait déjà des courses sur des autodromes, alors pourquoi pas en stade mais bon, en fait, je pense que c'est une information qui est sortie au début du mois.
Oui, en
donc,
effet.
Hein, je Et... pense, hein. Très tôt dans le début du mois, tu vois ce que je veux dire.
D'accord, oui, mais à la même époque, en ce début
ouais.
de mois,
ouais.
j'avais appris aussi qu'Infront avait... Il y a eu des rumeurs d'unifier les deux catégories MXGP et MX2.
Ah ouais.
Parce alors, que bon, là, c'est vrai que les grilles de départ n'ont pas toujours les 40 pilotes souhaités.
Ah non, ça c'est clair, ça c'est une réalité. Par contre, unification des deux catégories, là, je crois connaître l'auteur de cette information, de ce scoop, hein, qui lui aussi fait référence à, au début du mois qui était très prolifique pour des informations improbables.
Très poissonneux d'ailleurs même.
Elle est poissonneuse, oui. Oui, non mais j'avais sorti ça, mais ça avait un petit peu pris quand même. Surtout que la MX2 était après uniquement réservée pour les motos à propulsion électrique.
Électrique, en effet, ouais,
oui. Donc ça, c'est un petit peu... Mais ça, il y a quelques-uns qui ont quand même marché dans le truc, et j'ai le but d'ailleurs.
Ouais, c'était bien écrit, parce que moi, j'ai dit, tiens, pourquoi pas. Mais après, bon, en réflexion, j'ai dit, non, c'est pas possible.
Ouais, mais voilà. Non. C'est heureusement, et j'espère que non.
Bon, allez, on revient au Grand Prix, au quatrième Grand Prix qui a eu lieu au Portugal.
Oui, hein, oui.
Voilà, toujours Erling et le champion du monde, Lefebvre, oui. Le vice-champion, toujours absent.
Toujours absent. Bah, du coup, c'est un MXGP, je dirais que c'est presque un championnat classique logique. C'est-à-dire que le premier et le deuxième du championnat du monde l'année dernière sont absents. Donc le troisième, c'était Tim Gajer. Et c'est Tim Gajer qui est donc en tête actuellement du championnat du monde MXGP. Il domine d'ailleurs, il domine le championnat, hein, c'est clair. Il avait gagné, donc tu l'as dit, le Portugal, c'était le quatrième Grand Prix. Il a gagné les trois premiers. Donc le quatrième Grand Prix, là, il a fait une contre-performance pour lui, il a fini second. Donc ouais. C'est pour dire que il est vraiment, non, c'est, il domine complètement le championnat. Et ses adversaires, ben, c'est le principal, c'est Jorge Prado. Hein, qui a gagné d'ailleurs le Grand Prix à Gueda au Portugal en remportant la première manche et terminant second de la deuxième. Donc voilà, c'est un championnat du monde quand même un petit peu tristouné, hein, parce que heureusement on en est arrivé d'un Français qui est Maxime Renaud, qui donc que vous connaissez bien, champion du monde MX2 l'année dernière, qui est monté donc dans la catégorie. Qui amène un petit peu de fraîcheur, je dirais, dans cette catégorie MXGP, parce que au plus haut niveau, c'est un petit peu ce qui manque, hein, la nouveauté, et voilà. Donc moi j'aime bien qu'il y ait des pilotes qui arrivent et qui mettent leur grain de sel là-dedans. Maxime apprend évidemment la catégorie, hein, c'est ça.
Mais au Portugal, c'est vrai que bon, il y a quand même deux places de 11e. Bon, ouais. Suite à des chutes, hein, je crois.
Ouais, mais en plus, mauvais départ. Agda, c'est difficile pour doubler. Voilà, c'est. Et puis en plus, il y a quand même une concurrence. C'est un niveau qui est assez. Les pilotes sont vraiment tous assez proches les uns des autres. Donc, lorsque tu pars mal, c'est difficile de remonter, hein, de reprendre les places. Maxime, il a appris au Agda. Bon, ben voilà, c'était pour lui un mauvais résultat, hein, comme tu le dis, le fond 11e. Mais bon, il n'y a rien de catastrophique. Il n'a pas véritablement d'objectif, je pense, sur cette première saison MXGP. Et puis en plus, il n'y a rien de catastrophique. Il est 3e au classement championnat, ouais. Donc, il est bien, il est à sa place. Il va, et puis il y a d'autres circuits, à mon avis, où il va performer. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas de mystère. Actuellement, c'est Tim Gajer le numéro 1. Et s'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas de concurrence plus forte, il se dirige tout droit vers un nouveau titre de champion du monde. Sachant en plus que Erling, comme tu l'as dit, est absent, mais il y a de grosses rumeurs, et là, c'est pas du tout impression d'avril, qu'il ferait le championnat américain de motocross qui démarre fin mai. Donc, on parle beaucoup de Erling qui partirait aux États-Unis pour faire ce championnat du monde de motocross, américain de motocross. Moi, j'avoue que je suis assez excité par cette idée, parce que de le voir confronté à Tomac, à Ferrandis, ça me plaît beaucoup. Ça serait nouveau, ça changerait un petit peu. Et puis, de toute façon, pour Erling, le championnat est foutu, là. Il ne revient pas encore ce week-end, il y a un Grand Prix en Italie, c'est le 5e, donc il a déjà Tim Gajer à 186 points. Donc, c'est impossible à rattraper 200 points sur un championnat, non, c'est pas possible. Donc, le championnat est plié pour Erling, il est plié également pour Romain Fèvre. Donc, C'est des gars qui ont besoin quand même d'objectifs. Et je pense que le Erlings aime bien relever ce genre de défis. Et moi, je le vois bien partir fin mai aux États-Unis pour faire le championnat de motocross américain. Ça serait, je pense que ce serait pas mal. Et puis on a hâte de voir revenir quand même Romain Fèvre en MXGP, parce que c'est la saison. Je vais te dire, actuellement, le mondial MXGP, pour moi, c'est un petit peu triste. Je trouve ça manque de... Voilà, de confrontation.
Ouais, il manque quelqu'un, quoi.
Ah, il manque quelqu'un. Hein. Puis là, quand on a les deux meilleurs de l'année dernière qui sont absents, en plus Kéroli qui a pris sa retraite, voilà, ça fait quand même dans le plateau, ça fait mal. Et on a des pilotes qui sont performants, mais on se dit, si les deux ou trois absents étaient là, ils seraient moins bien, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui me gêne sur ce début de saison en MXGP.
Et on va parler des MX2. Ouais. Bon, là, on ne sait pas qui sera champion du monde, parce que Tom Vial est moins rapide, ou le Belge Gers remonte. Gers.
Ouais, mais alors Iago Gers a bien commencé le championnat, KTM a sorti une nouvelle moto, donc ils ont mis un petit peu de temps à faire une mise au point. Apparemment, ça va beaucoup mieux, parce que Tom maintenant est lancé dans son championnat pour voir qu'il a gagné le Grand Prix donc au Portugal. Hein, c'est lui qui l'a remporté, on a entendu la Marseillaise. C'était le deuxième Grand Prix qu'il remportait d'affilée. Il a gagné également en Argentine, donc il reste sur deux victoires de Grand Prix. Donc c'est pas mal. Et en plus, dans le même temps, faut voir que Tom avait en fait qu'une contre-performance, c'est lorsqu'il tombait avec cette fameuse chute très spectaculaire en Italie, la Mantova. Ouais. Voilà, c'est là qu'il a fait un résultat où il n'a pas marqué de points sur cette manche-là. Mais sinon, il est premier, deuxième, sa plus mauvaise place, c'était une troisième place. Donc, Tom, il est là pour le titre, et je pense que ça va continuer comme ça. En plus, Iago Gertz a déjà montré quelques signes peut-être de nervosité. Il a fait quelques erreurs au Portugal, il en avait fait aussi en Angleterre. Bon, il est moins régulier que Tom, voilà. Donc, je pense que pour Tom, tout est permis. Et puis, il y a quand même quelque chose de particulier, c'est que on va avoir, le prochain Grand Prix qui se déroule donc ce week-end en Italie, on aura Pierre Goupillon qui sera au départ. Et Pierre Goupillon, c'est quand même c'est le leader en élite en MX2. Donc ça va être intéressant de voir justement ce qu'il fait en mondial pour par rapport au niveau des Grands Prix, vu que là, il se trouve sans concurrence avec une épreuve du championnat. Donc il sera présent au Grand Prix d'Italie qui se déroule ce week-end. Voilà.
Et dernier point, c'était le Grand Prix du motocross féminin. Après deux Grands Prix, c'est les Hollandaises qui sont en tête.
Ouais.
Mais, cinquième au provisoire, Amandine Verstappen, qui a une licence dans un club du Nord, mon cher Angelou.
C'est une licence. C'est une licence, donc on ne peut pas dire que c'est une Française quand même.
En championnat de France, elle a une licence française, et en championnat du monde, une licence belge.
Ouais. Non, mais c'est, si tu veux, elle est... Bon, ce n'est pas une Française, alors après, si imagine que Erling se prenne une licence à la FFM et qu'il court pour avec une licence française... non, Erling, c'est un Néerlandais. Maintenant, faut respecter ce genre de choses. Après qu'ils prennent des licences.
Ouais, mais n'oublie pas, Gilou, il y a un moment, il y avait des pilotes qui prenaient des licences au Luxembourg, je m'appelle, en Grand Prix 500, et ils roulaient sous les couleurs du Luxembourg. Enfin, je ne me rappelle plus.
Mais
c'était déjà des bons pilotes.
Même aux Nations, on avait des équipes qui. Qui avait des pilotes avec à un moment ils prenaient les pilotes qui avaient les licences de la fédération, et après heureusement ça a été supprimé, c'est-à-dire que maintenant on prend des pilotes avec les nationalités, et c'est quand même mieux comme ça. On a quand même un cas avec Calvin Vlaanderen qui a des origines alors Afrique du Sud, mais qui court avec une licence, et puis apparemment il aurait la double nationalité. C'est assez moi j'aime les choses claires, si tu veux. Alors j'ai vu par exemple comme il y avait une pilote anglaise qui a commencé un championnat avec nationalité irlandaise, et puis après, elle était Grande-Bretagne.
Ah, d'accord.
Voilà, donc...
Gilou, on est presque à 13 minutes. 13 minutes.
Oui, c'est parfait. Donc, il me reste encore une dizaine, c'est ça?
Ouais, voilà, exact. Écoute, on te reprendra peut-être plus. Le mois prochain, si tout va bien.
Donc, je reste alors branché jusqu'au mois prochain, alors.
Voilà, et puis tu feras encore tes études en ch'ti. Hein,
t'as un mois pour réviser le ch'ti.
Ouais, et de parler ch'ti.
D'accord. Ouais. Je crois qu'on dit salut pour dire au revoir, c'est ça, non?
Non, on dit ça partout. Ouais. Il n'y a pas que dans le Nord.
justement.
Non, c'est pas.
on dit salut, c'est
oui,
tout.
Oui, oui, salut. Bah, écoute, Gilou, ouais, voilà, salut. Et puis, on se donne rendez-vous
au mois de mai. Prochain.
Voilà, très bien.
Allez, salut, Gilou.
Salut.
Allez, ciao, les gars. Salut.
Là, au téléphone, nous avons José Johan, président de la DAC.
La MAC.
La MAC. C'est la MAC, hein?
La MAC, bah, l'association des motos anciennes du Calaisie.
D'accord, je me suis trompé dans le numéro de téléphone, donc voilà. Voilà. Alors, tu vas nous présenter ton expo Bourse, hein, qui aura lieu le week-end prochain.
Oui, 16 et 17, 16 après-midi.
C'est à quel endroit ?
La journée. Alors, ça se trouve à Guine. Guine, dans 62-340, c'est entre Calais et Marquise.
Très bien, oui.
C'est plus près de Calais, c'est à 10 km de Calais. Hein.
Très bien.
Et ça se situe donc à la salle municipale des sports avec, pour la bourse, en espérant qu'il fasse beau, on a un emplacement immense en mètres linéaires, on doit avoir un kilomètre, je pense, en linéaire. Et à l'intérieur, on a une salle de 700 mètres carrés où on peut mettre une centaine de bécanes sans problème. Et aussi une buvette.
D'accord. Donc, voilà. C'est présent. On vend des motos ou on vend que des pièces moto ?
Non, sur la bourse, il n'y aura que ce qui est en rapport avec la moto ancienne. Mais l'expo, ce n'est que de la moto ancienne des origines.
Oui.
Moi, j'ai ma plus vieille, elle est de 1920.
D'accord.
Et après, j'ai une 26, et puis jusqu'aux années 70, 80, 90, quoi.
D'accord.
Mais il y aura un secteur par tranche d'âge. Il y aura un secteur Youngtimer, il y aura un secteur ancienne, il y aura un secteur Harley, parce que c'est fait que... On s'est retrouvé avec 8-10 Harley, donc des modèles rares en plus, et des beaux modèles, donc des blocs de fond, des Chauvel, des WLO, WLC. Puis après, un petit coin scooter et puis un gros coin cyclo aussi, avec des cyclos sport, des cyclos standards, je vais dire. Ça va de mobilette bleue jusqu'au Rockval Watt 6. Enfin, c'est... La bourse sera très très complète. L'expo sera très très complète.
L'expo est complète. On peut, si on a une moto à proposer en exposition, c'est fini.
Non, tout le monde peut venir.
On peut encore venir. Oui.
L'expo est complète, mais la bourse, on peut mettre toutes les motos à vendre dehors.
D'accord. Et pour la bourse, on peut encore s'inscrire.
Oui, et c'est gratuit.
C'est gratuit.
Pour la bourse, les emplacements sont gratuits.
Donc c'est en extérieur. Alors, si jamais le temps n'est pas de la partie, il faut venir avec une petite tonnelle, peut-être, je suppose.
On en a quelques-unes, mais bon, voilà. On connaît les difficultés à organiser des bourses dans la région. Moi, par Arras et Cambrai, tous ceux qui ont essayé se sont ramassés. Donc, on va essayer quand même en profiter de la jeunesse du club. Je ne parle pas des adhérents, mais c'est une première, étant donné qu'on est né en même temps que le Covid. On a quand même réussi l'an passé à organiser la DGR, la Distinguished Gentleman Ride.
Oui.
Ça a été la première sortie officielle depuis que tout le monde avait été bloqué chez lui. Quoi.
La MAC, ça n'a que 2 ans d'existence ?
La MAC n'a que 2 ans d'existence.
Ah, d'accord, très bien. Ah ouais, c'est tout jeune alors là. C'est vrai que vous êtes...
Tout jeune, moi j'ai 68 balais.
Oui, Mais l'assaut, elle est toute jeune.
Ça va bien, dans la tête, ça va bien. On a eu une réunion il y a minuit.
Il faut bien commencer un jour. Voilà, très bien.
Oui, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur, surtout.
Et pas avoir peur. Vous êtes combien dans l'assaut ?
Depuis hier, on a eu encore 3 inscriptions. On est à plus de 30.
C'est bien. Voilà.
Oui, il ne faut pas non plus monter à des quantités phénoménales de personnes qu'on ne verra qu'une fois dans l'année ou pas. Là, hier, presque tout le monde était là.
Donc, très bien.
Hormis ceux qui travaillent, mais c'est vrai que le travail, ça gêne beaucoup pour les loisirs. Hein.
Alors le but à l'heure de l'assaut, c'est de quoi ? C'est de faire la bourse expo, mais aussi durant l'année de faire d'autres choses ?
On a fait quelques balades quand même l'an passé, mais sans faire de bruit, bien sûr, il fallait être discret. On a fait quelques sorties pour tester les bécanes, parce qu'il y en a qui ont, comme moi, qui ont des bécanes et qui ne sortent que dans les expos, quoi. Mais là, cette année, le 22 mai, on réitère la DGR, la Distinguished, et après, il y a des sorties prévues dans la région en fonction du type de bécane. Comme tout le monde a des bécanes anciennes et des bécanes modernes, quand on va à Dijon, par exemple, on prend les bécanes modernes, hein, on ne va pas partir avec le terreau à Dijon, mais les sorties dominicales ou peut-être sur un week-end même, on les fait avec des vieilles.
Ok, très bien. Bon, on revient un petit peu à cette Bourse Expo. Donc, ça commence le 16, le samedi 16 avril.
Elle commence samedi 16 à 14h jusqu'à 19h. Et dimanche, c'est l'expo Bourse, là, avec la bourse, donc de 9h à 18h.
Donc, l'expo, elle est payante. Donc, quand on rentre dans la salle, il y a un prix d'entrée.
L'expo, elle est à 2 euros. Et la bourse, les emplacements, c'est gratuit.
Voilà.
Bonjour Jojo, Guy. Est-ce qu'il y aura une baraque à frites à l'entrée et à boire chez vous?
Et il y aura une buvette tenue par mon épouse qui connaît très bien.
Ah, ben je ne paierai pas alors.
Tu crois? Non, on fait un prix spécial pour les journalistes.
Ah, d'accord.
Surtout la vie de la moto.
Voilà, exact.
Donc, non, il y aura une buvette, mais on a trois restaurants à 200-300 mètres. Donc, ils se tiennent tous. Ils font partie de nos sponsors d'ailleurs. Et je les remercie, ils se connaissent. Hein. C'est le Galloway, c'est la Belle Auberge, et puis c'est Mario. C'est des gens qui font soit de la pizza, soit de la bonne bouffe, là, mais vraiment de la bonne bouffe, ou soit du kebab et des trucs comme ça. Quoi.
D'accord.
Il y a ce qu'il faut pour manger et boire sur place.
Dernier point, Guignes, pour le situer dans le département, c'est pas loin de...
C'est pas loin de Calais, c'est le plus près, la grande ville c'est Calais, c'est à 10 km. Après, on n'est pas loin d'Audruic, on est à 15 km d'Audruic, on est à 12 km de Marquise. C'est accessible, j'allais dire, de toute la région Nord-Pas-de-Calais. Hein. Très très facilement, d'autant plus qu'il y a une autoroute de chaque côté. Bon.
Il y a moyen de retrouver toutes ces infos là sur un site ou un numéro de téléphone ou sur Facebook peut-être?
Sur Facebook, on a le Facebook du club, oui. Ouais.
D'accord. Bon, bah écoute, Jojo. Tu te fais appeler Jojo, moi je crois que c'était Johnny Hallyday qui nous appelait, mais c'était...
Non c'est Jojo, Johan. J'écoute après, là. J'écoute toujours du vinyle dans mon garage, moi.
Ah, d'accord.
Ouais, j'écoute Jojo.
Johan, mais... on te remercie.
C'est moi qui vous remercie, les gars, c'était sympa.
Et puis, bonne réussite, alors.
Ouais, je voulais dire que tous ceux qui ont des mobilettes, des Solex et compagnie à vendre, qui n'hésitent pas, les emplacements sont gratuits. Et plus il y aura de monde, tout le monde le sait, enfin tous les anciens, que si on réussit la première, il y en aura d'autres derrière.
D'accord.
Si on se plante à la première, bon là après on est tributaire du temps, on n'est pas dans une grande ville, on n'a pas des palais des expositions, mais c'est quand même une belle salle avec toutes les protections qu'il faut, avec les sanitaires et compagnie. Donc il n'y a aucun problème. Et puis pour accéder, il y aura un parking spécial moto.
D'accord. Donc voilà, le week-end prochain, donc à Guignes, un Expo Bourse, hein, à partir
oui,
de
ça, Expo Bourse.
9h.
Midi, 14h le samedi et 9h.
14h le samedi, voilà, j'avais pas noté. Voilà.
Ouais.
Très bien, merci.
C'est moi qui vous remercie, les
et
gars.
Allez, un bon week-end.
Salut.
Et au revoir à tous.
Au revoir. We'll be right back. Au téléphone, nous avons Mikko Petitset qui est en tête du championnat élite.
Oui, nous avons le Lion des Flandres. Oui. Bonjour Mikko.
Bonjour tout le monde.
Impeccable. On n'a pas réussi à t'avoir juste après ta victoire à l'enduro du Touquet, mais c'est pour bien sûr te féliciter de ta victoire qui a été sans bavure au Touquet. Sauf une petite question, Mikko. Tu as ravitaillé dans le dernier tour. Est-ce que c'était déjà prévu, ça? Parce que tu as pris quand même un risque, non?
Non, en fait, c'était pas prévu. C'est vrai que les deux pilotes Yamaha étaient. On était assez loin en tête par rapport au troisième. Et c'était pour éviter de prendre un risque inutile. On aurait pu faire un tour. Un tour supplémentaire, mais en fait, sans ravitailler, mais il y aurait resté un petit 2 litres d'essence dans le réservoir à la fin du tour. Et donc, chez Yamaha, ils n'ont pas voulu prendre de risque. Ils ont préféré mettre de l'essence. Le but était vraiment de repartir pour un tour, mais c'est plus moi qui ai calculé, en fait, avec mon chrono sur le guidon.
Ah oui, d'accord.
J'ai pris un risque sans en prendre, parce que je savais que j'avais 1 minute 30 d'avance. Donc, on va dire, j'ai roulé plus cool, mais j'ai perdu 15 secondes. Donc, ça me laissait de la marge et ça m'a évité de prendre des risques supplémentaires un tour de plus.
Ouais, parce que bon, à voir comme ça, bon, il y avait peut-être un risque. Des fois, la moto ne l'aurait pas redémarré ou n'importe quoi. Ben, surtout, ton coéquipier, lui, il ne s'est pas arrêté quoi, pour l'essence. Quoi.
Ben, si, il a eu la consigne aussi de s'arrêter dans le dernier tour.
Ah, c'était, d'accord.
C'était vraiment la stratégie YAM. Forcément, j'y ai pensé aussi. Après, on reste quand même une équipe et c'est le meilleur qui gagne. Là, en l'occurrence, c'était moi. Ce week-end-là, donc ça aurait pas été cool de leur part. Mais non, c'est très réglo dans le team Yamaha. Donc, tout s'est bien déroulé.
D'accord. Donc, après cette victoire, tu as attaqué le championnat de France élite. Déjà trois épreuves. Long plage, tu fais 2x1, Guignon 2 et 1, Romagné 1 et 2. Concernant long plage, bon, y a eu quand même un déficit du public. Quelles sont tes analyses sur ce? Est-ce que le Touquet était trop près de long plage ou pas?
Oui, forcément. Il y a eu vraiment énormément de monde au Touquet, donc on va dire qu'ils ont eu leur dose moto durant 3 jours de course. Le changement de date, ça n'a pas aidé pour la course de Loun. C'est vrai qu'il y avait un super plateau, le terrain était magnifique, le club avait fait un gros boulot, donc c'est dommage qu'il ne soit pas récompensé. Mais après, je pense que c'est une belle expérience pour le club et j'espère qu'ils vont continuer parce que leurs efforts vont payer, c'est une certitude.
Est-ce que la date comme ça, assez hivernale, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un risque de ce niveau-là, non?
Non. Au final, c'est vrai qu'on a eu soleil toute la journée. Il faisait frais, mais soleil toute la journée. Après, le week-end d'avant, en tout cas, on a eu une température de fou. Donc ça, on ne peut pas trop prévoir, je dirais, dans le Nord. Et la deuxième et la troisième épreuve du championnat élite, on a eu tempête... pour la deuxième épreuve avec vraiment des très gros orages alors que c'était vers Lyon et là ce week-end à Romagné en Bretagne il y a vraiment fait très froid aussi, on a eu la piste gelée donc on voit que c'est un peu partout pareil, la météo elle est capricieuse
ouais.
Il faut s'adapter
ouais, parce que Lomplage, bon, du sable, Guignon de la boue et Romagné du dur alors
Ouais, là, on a bien enchaîné dans toutes les conditions. Et c'est vrai que ça se passe vraiment très bien pour moi. Donc, c'est cool.
Et les prochaines épreuves là, qui vont se dérouler à Castelnau, à Beach, à Villars et à Bali, est-ce que tu connais, bien sûr, tu connais ces, les circuits, est-ce qu'ils sont adaptés à toi, quoi, je pense.
Ouais, non, ça c'est... On va dire que j'ai la faculté de m'adapter assez vite à toutes les surfaces, donc non, ça, il n'y a pas de problème. Après, ça sera à moi à faire du mieux possible. Le championnat est encore long, c'est vrai que là, c'est que je suis vraiment bien parti, mais je regarde pas trop pour le moment. Je vais aller course par course et on verra là.
D'accord. Hormis les championnats de France élite, entre deux, tu as des épreuves nationales ou internationales, parce que il y en a très peu en France malgré tout.
Bah là, c'est vrai que cette année, ça a bien repris. Donc là, j'ai des courses jusque fin juin tous les week-ends. Comme là, ce week-end, j'ai une petite course près de Cambrai. La semaine prochaine, c'est l'élite. Enfin, c'est vraiment, c'est toi qui as la tête. C'est vraiment une belle saison. Et là, j'ai une douzaine, 12 ou 15 courses qui m'attendent.
D'accord. Au niveau de la machine, tu es aidé directement par...
Tu as des enfants.
Oui. Non, c'est une Potisec junior.
Là, c'est le petit Milko.
C'est le petit Milko.
Ah oui,
d'accord.
Qui lui fait des petits chants.
Ah, d'accord. Voilà. Il parlera à la radio plus tard. Oui, alors donc, tu as une aide de Yamaha, importateur direct.
Oui, oui, oui. Là, maintenant, c'est Yamaha Europe qui gère... Je suis pilote officiel Yamaha Europe, donc tout le matos vient de entre Yamaha France et l'Europe. On a pas mal de pièces usines aussi maintenant sur la moto, donc là on a vraiment passé un gros cap sur la moto.
De préparation, ouais.
Ça se voit, ça part devant au touquet. Enfin, non, c'est vraiment ça, c'est le top.
Tes mécanos là, c'est... Comment aux attaques, c'est là la base, elle est là, je crois, non?
Oui, oui, la base, elle est toujours à Calais, chez Dragon Tech.
D'accord. Et les mécanos, tout ça, viennent de là, enfin, c'est ton mécano habituel, quoi, là-bas.
Oui, oui, voilà, c'est toujours, c'est Guillaume Davion qui prépare les motos de course.
Ok, ok. Voilà.
Milko, tu connais bien Isabelle Andrieux?
Ah bah.
Oui.
C'est son anniversaire aujourd'hui. Enfin, on est samedi, hein, on prenait à préciser que l'émission était enregistrée. Hein. C'est son anniversaire. Je sais pas si tu le savais.
Est-ce que tu le savais?
Oui, 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 je le savais.
Ah bah alors t'apprends rien alors. Bon, alors dommage. Alors que c'était un scoop.
ce matin.
On pensait que c'était un scoop. Voilà.
Parce qu'elle était venue à la radio, elle était un peu déçue de l'emplage, mais enfin bon, le moral est revenu. Milko, te remercie. Ouais. J'aurai l'occasion de te rappeler un jour à la radio.
Ok, bah merci beaucoup.
Bonne chance et à plus. Salut, Milko.
Bah, l'émission se termine. Guy, quelque chose à rajouter sur le tout-terrain ?
Non, peut-être...
Bon, si, on voulait revenir un petit peu sur la race. On a retrouvé ce fameux mot que tu cherchais, là.
Donc, c'est une piste, de vitesse.
Tu rapproches du micro.
La piste de vitesse pour le patin sur glace. Il y avait le hockey sur glace et le curling.
Et le curling. Alors, le curling, c'est.
C'est une grosse pierre, oui, avec le balai. Là.
C'est pas une pierre, hein, c'est une espèce de toupie.
C'est une pierre.
Bah, c'est une pierre.
C'est une pierre.
Et on balaye pour chauffer la glace.
Voilà.
De manière à ce que cette pierre aille plus vite ou moins vite.
Et cette glace, elle est propre, hein, à force de balayer. Hein.
Oui, cette glace était propre à force de balayer. Bon, ok, d'accord, très bien. Voilà. Moi, je tiens à souligner que le week-end prochain, à partir de jeudi, eh bien, c'est la première épreuve du championnat du monde d'endurance, hein, et qui va se dérouler où ?
Au Mans.
Et voilà. Oui, à partir de jeudi, hein, donc il va y avoir du pro classique, du handy race, et puis des animations, des concerts, plein de choses. Et puis forcément, la course est 24 heures, hein, qui va débuter donc à 15h le samedi.
Le samedi.
Voilà. Voilà, merci Guy pour toutes ces infos motocross,
enfin,
tout terrain, tout au moins, tout grâce ou tout ce qu'on peut dire, hein, parce que c'est de tout terrain,
il y a grande famille.
40 000 disciplines. Hein.
Ouais,
on dit... il y a le motoball aussi, on n'a jamais parlé de motoball. C'est du football,
ouais.
En moto.
En moto, ouais.
On pourra en parler aussi, ça se passe dans le sud-ouest.
Oui, mais eux, ils vont jamais aller au Qatar,
voilà.
Au championnat du monde.
Et merci Régis, hein, pour ce petit... visitation de cette course donc d'Ice Race aux Pays-Bas. Voilà. Tiens, Guy, on peut retrouver des photos, je suppose, sur le site.
Sur le site, sur le forum, oui, il y a des courses.
Enfin,
des
forum, knc.fr, qui est qu'un coup des toupales.
Rubrique Ice Race.
Ice Race, ouais. Très bien, voilà, très bien.
Ice Race, écoute, j'ai mis l'information, les photos, en 48 heures, 407 vues.
Incroyable. T'es sûr que ça marche ?
Ouais, c'est mieux que le Grand Prix MotoGP. Hein.
Et on remercie notre technicien Laurent pour cette technique toujours au super millimètre.
Merci
Laurent. Passez un bon dimanche et nous on se retrouve dimanche prochain, 11h. Voilà.